Chapitre 12. Le bâtiment du Sénat de l'hégémonie humaine s'inspirait plus, dans son architecture, du Sénat des États-Unis, tel qu'il existait 8 siècles plus tôt, que des structures plus impériales de la République d'Amérique du Nord ou du Premier Conseil mondial. La salle de réunion principale était vaste, bordée de galeries, et accueillait aisément plus de 300 représentants des mondes du Retz et environ 70 membres non-votants venus des colonies du protectorat. Des tapis bordeaux rayonnaient à partir de l'estrade centrale, où le président pro tempore, le speaker de l'Assemblée et, aujourd'hui, la présidente de l'hégémonie, siégeaient. Les pupitres des sénateurs étaient faits de bois de muire offert par les Templiers du Bosquet de Dieu, qui tenaient cette essence pour sacrée. L'odeur des boiseries polies remplissait la salle malgré la foule qui l'occupait. Nous entrâmes, Legge Hunt et moi, à l'instant où Gladstone achevait son discours. Je demandai à mon père Sock une mise au courant rapide. Comme la plupart des interventions de Gladstone, celle-ci avait été courte, relativement simple, sans condescendance ou effet de style inutile, mais faite sur un ton et avec un phrasé imagé chargé d'une très grande force. Elle avait d'abord passé en revue les incidents et les conflits qui avaient conduit à l'état de belligérance actuelle avec les extros. Elle avait proclamé le désir de paix qui animait toute la politique passée et présente de l'hégémonie et lancé un appel à l'union au sein du Retz et du protectorat jusqu'à la fin de la crise. Elle en était maintenant à la conclusion que j'écoutais en direct.
« Il se trouve donc, mes chers concitoyens, que nous sommes de nouveau engagés, après plus d'un siècle de paix, dans un combat pour le maintien des droits que notre société a toujours défendus depuis la disparition de notre mère patrie, la Terre. Après plus d'un siècle de paix, nous voici obligés de reprendre, quel que soit notre écœurement et nos réticences, le glaive et le bouclier qui ont été, dans le passé, les garants de notre bon droit et de nos intérêts, afin que la paix puisse de nouveau régner un jour. Nous ne devons pas, et nous ne le souhaitons en aucun cas, nous laisser griser par le son des clairons, ni par l'exaltation que les appels aux armes inévitablement provoquent. Ceux qui ignorent les leçons de l'histoire et la folie des guerres sont condamnés à les revivre. Ils en mourront peut-être. De grands sacrifices nous attendent sans doute. De grandes douleurs affligeront certains d'entre nous. Mais, quels que soient les revers ou les succès que nous rencontrerons inévitablement dans notre entreprise, je dis qu'il faut le faire. Et que deux choses, par-dessus tout, sont pour nous tous à garder en mémoire. La première est que nous combattons pour la paix et que la guerre est un fléau temporaire qu'il nous faut subir comme un enfant subit la rougeole ou la scarlatine, en sachant bien qu'au bout du tunnel de souffrance, nous attendent la paix et le bien-être renouvelés. La seconde est que nous n'abandonnerons jamais. Jamais nous ne céderons ni ne plierons devant la volonté de personne. Jamais nous n'écouterons des voix étrangères, ni même nos propres inclinations vers une voie plus confortable. Jamais notre volonté ne vacillera jusqu'à ce que la victoire nous appartienne, que l'agression soit vaincue et que la paix soit gagnée. Mesdames et messieurs, merci.
Legge Hunt se pencha en avant pour regarder attentivement les sénateurs qui se levaient en masse pour faire à Gladstone une ovation dont l'explosion monta jusqu'au plafond pour se répercuter par ondes successives dans la galerie où nous nous trouvions. En masse, mais pas à l'unanimité. Je vis Hunt compter les sénateurs qui demeuraient assis, les bras croisés ou la mine renfrognée. La guerre avait moins de 2 jours, et déjà une opposition se constituait, touchant d'abord les mondes coloniaux, inquiets pour leur sécurité, au moment où la force se concentrait sur le système d'Hyperion. Puis l'opposition à Gladstone, nombreuse dans la mesure où personne ne peut rester si longtemps au pouvoir sans se créer des ennemis. Et enfin, une petite partie de la coalition présidentielle qui voyait dans la guerre un moyen ridicule de mettre fin à une période de prospérité sans précédent. Je la vis descendre de l'estrade pour aller serrer la main du président sénile et du speaker juvénile. puis emprunter l'allée centrale pour gagner la sortie en s'arrêtant pour dire un mot ou donner une poignée de main à d'innombrables personnes, sans jamais perdre son sourire familier. Une cohorte d'imageurs de la Pangermie la suivait, et je sentis le poids du débat s'amplifier, tandis que des milliards de voix ajoutaient leurs commentaires à tous les niveaux interactifs de la mégasphère.
« J'ai besoin de la voir tout de suite », me dit Hunt. « Savez-vous que vous êtes invité ce soir à un dîner officiel à la cime de l'arbre ?»«
Oui. »
Il secoua légèrement la tête, comme s'il était incapable de comprendre pourquoi la présidente tenait tellement à ma présence partout.
« Le dîner finira assez tard et sera suivi d'une réunion avec le haut commandement de la force », ajouta-t-il. « Elle désire que vous y participiez aussi. »
« Je serai libre, » répondis-je.
« Avez-vous quelque chose à faire à la maison du gouvernement avant ce soir ?» me demanda-t-il.
« J'ai l'intention de dessiner un peu, » lui dis-je en souriant.
« Ensuite, je me promènerai sans doute dans le parc Odin. Après cela, je ne sais pas.
Je ferai peut-être une petite sieste. »
Hunt secoua de nouveau la tête et s'éloigna rapidement vers la sortie.